Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
Et tous les dimanches, il y avait une soirée incroyable où il y avait des gens du milieu hip-hop assez connus, le public entre guillemets anonyme, des habitués et des joueurs de foot professionnels. Et les rappeurs adorent le foot. Et les joueurs de foot adorent les rappeurs. C'est incroyable ce qui se passait. C'est-à-dire tout le monde avait les yeux qui brillaient. C'était n'importe quoi. T'avais des rappeurs qui faisaient des déclarations d'amour à des joueurs de foot. Hey, je t'aime trop. Mais moi aussi, je t'aime trop. Et tu vois, des trucs tous les dimanches comme ça. J'étais mort de rire.
Il était là. Quel que soit l'arrêt soit, cet homme-là était toujours là. À force d'être omniprésent, le gonze en est presque devenu omniscient. Un puits de savoir et d'anecdotes de première main. Il en a même fait un livre, assez logiquement intitulé « J'étais là, 30 ans au cœur du rap », paru aux éditions Face Cachée. Le rappeur Driver, qui accède à la notoriété en 1998 avec son premier album Le Grand Chelem, n'a pas seulement été qu'un témoin privilégié de l'explosion de la scène rap française. Bien sûr, sa passion de la rime l'a amené à traîner dans toutes les soirées hip-hop parisiennes de ces 30 dernières années. Et rien que ça, c'est déjà un morceau d'histoire. Mais son amour du dancefloor l'a aussi porté vers d'autres horizons festifs. Zouk, raga, dancehall et surtout, reggaeton. Rien n'est trop chaud pour le French reggaetonero qui swing son popotin. Car pour Driver, la bringue est un médicament. Celui qui est devenu l'un des meilleurs conteurs de l'histoire du rap, à travers ses émissions et podcasts, featuring, roule avec Driver, la récré, change aujourd'hui de casquette pour nous conter avec autant de passion son sens personnel de la fête. Driver, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que t'as fait la fête, c'était quand ?
On est mercredi, dimanche. Une soirée qui s'appelle Back to Basic, que j'anime moi-même avec des DJ, et qui revisite le hip-hop, le R&B et le dancehall des années 90 et 2000. Allez, on va dire, on s'arrête à 2005.
C'était une bonne soirée.
Super. Déjà, c'est un dimanche. C'est sur un rooftop et le soir on rentre dans un club, il y a beaucoup de danseurs de l'époque qui retrouvent donc les sons qu'ils ont aimés à l'époque et font des cercles et des battles. Ils dansent vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment pour danser. Alors qu'il y a d'autres clubs où tu viens pour draguer, d'autres où tu viens pour te montrer. Là les gens viennent d'abord pour danser et donc déjà ils ramènent cette ambiance assez joyeuse. Donc on a ce truc quand même de gens sérieux qui vont travailler, qui vont pas rester jusqu'à l'aube, mais qui vont tout donner pendant les 2 ou 3 heures et vont être là.
Make a boy know, say if you're moving, blow, whoa, whoa, whoa.
C'est important pour toi la fête ?
J'en ai besoin pour mon équilibre, clairement. Je trouve ce monde très très triste, vraiment. Et je suis quelqu'un de très souriant, hein. C'est-à-dire, quand on me voit, on peut pas penser que je pense ça, mais je trouve ce monde très très triste, donc du coup, les quelques petites choses joyeuses qu'on a, moi il me faut ça tout le temps dans ma vie, ou sinon je vais sombrer. Donc ouais, la fête fait partie de ma vie, c'est genre chaque semaine.
Depuis quand ? Depuis toujours ?
Non, il y a eu des moments très speed où je sortais beaucoup, d'autres où moins, voire des moments où j'ai complètement arrêté. Là, ces dernières années, c'est le travail qui m'a ramené en club. J'animais énormément de soirées au micro, en fait. Et du coup, ça m'a redonné goût à la fête, à la sortie et tout. Et ça fait que quand je travaille pas, je sors quand même. J'en ai besoin.
Du coup, t'en as besoin. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu recherches, en fait ?
Moi, j'ai besoin de me sentir heureux. Et quand un DJ joue la chanson que t'aimes, t'es heureux. Quand un DJ joue la chanson que t'aimes, tu peux te dire « Ouais, mais tu peux la jouer chez toi, la chanson, tu seras heureux. » Non, le truc, c'est quand le DJ joue la chanson que t'aimes et que tout le monde crie, donc tu vois 100, 200, 300 ou 1000 personnes qui, eux aussi, aiment la même chanson que toi, ça te rend très heureux. Moi, j'ai besoin de ça.
La communion.
Exactement. Ouais. Le partage, tout ça. Ah, toi aussi, t'aimes ce morceau. Ah, super. On est tous ensemble.
Alors, on va revenir un peu aux sources. T'as grandi à Sarcelles, dans le Val d'Oise, avec des parents d'origine camerounaise, je crois.
Exactement.
Tu peux nous raconter un peu le milieu dans lequel tu grandis quand t'es petit, et est-ce que on faisait la fête chez toi quand t'étais gamin ?
Bah déjà, il y a beaucoup de musique, moi, quand je suis petit. Mon père est un collectionneur de vinyle, et ça allait dans tous les sens. On pouvait entendre du James Brown, comme de la musique africaine, de la musique camerounaise, en l'occurrence, comme du Mike Brandt, comme ça allait vraiment dans tous les sens. Mon père... T'es mélomane, mon père jouait de la guitare, voilà. Donc il y a de la musique à la maison, ça c'est clair et net.
Sabine, 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 mon amour, nous sommes unis pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, sous la pluie et sous le soleil.
Dans la communauté camerounaise, il y a toujours des fêtes de famille. Un coup c'est chez toi, un coup c'est chez l'autre, un coup voilà. Et donc il y a toujours eu des moments où on recevait toute la famille et plein de gens. Et moi j'étais tout petit, donc je grandis là-dedans, je vois des gens en train de faire la fête, danser, crier, parler, tout ça. Ça arrivait souvent.
C'est quoi ton tout premier souvenir de fête ? Je sais pas, un anniversaire, un mariage, un...
Mon premier souvenir, fête de famille... Les adultes sont en train de danser, s'amuser, discuter et tout. Moi, je passe de temps en temps. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils viennent avec leurs enfants, les invités. Et du coup, tous les enfants se réunissent. Et ils restent entre eux. Et voilà, allez, vous amusez entre vous. Les adultes, ils sont entre eux. Sauf que moi, je suis curieux. Je veux savoir ce qui se passe chez les adultes. Et je viens et je regarde. Et il y a toujours un adulte qui me dit, petit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux et tout, machin. Et là, j'arrive et il y a de la musique et je commence à danser. Et là, tout, oh, le petit est en train de danser. Tout le monde s'arrête, tout le monde est mort derrière. Et c'est, j'ai des souvenirs de ça où j'étais le clou du spectacle.
Les premiers moves sur le dance floor.
C'est ça.
Et donc tu dirais qu'on t'a inculqué d'une certaine manière le sens de la fête ?
C'est même pas inculqué, c'est en toi. T'as rien demandé en fait. Tu penses que c'est normal. T'es petit, tu penses que tout le monde vit comme toi. Tu penses que chez tout le monde et tout. Moi je me rappelle, au collège, je me retrouve dans la classe d'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et je lui dis ce que j'écoute et tout. Et lui m'explique, mais moi j'ai pas de poste radio chez moi. Je lui dis, t'écoutes pas de musique ? Je dis non. J'ai dit, mais t'as pas de poste radio ? Non, un radio réveil pour écouter France Info, les informations, tout ça. Moi, je me dis, mais sa vie, elle doit être triste. Mais donc, tu connais pas tel chanteur, tout ça ? Non, c'est qui et tout. Et c'est là que je comprends que tout le monde ne vivait pas comme nous, en fait. Il y a des gens pour qui la musique, c'est rien. Moi, c'était déjà en moi, en fait. C'était normal.
À partir de quand, les fêtes, c'est plus celle des parents, mais ça commence à être toi qui sors. Est-ce que tu vas, je sais pas, à Sarcelles, il y a des teufs, des booms.
Ouais,
des...
Ouais.
Comment ça se passe tes premières soirées ?
Les premières, c'est les booms. Je suis jeune collégien et c'est tendu. Hein.
C'est tendu.
Quand je dis c'est tendu, c'est en fait, Une boom, ça peut durer. On est même pas vraiment adolescent. On a 11, 12 ans, comme quelque chose comme ça. Donc c'est pas le soir. Déjà, c'est l'après-midi, mais ça peut durer toute l'après-midi. Mais moi, il y a un truc qui me met la pression. Et ce truc, il dure que 15 minutes. C'est le quart d'heure américain. On va devoir danser des slow avec des filles. Et on est quand même à l'âge où on s'intéresse aux filles. Mais en même temps, on doit pas trop l'avouer. On est là en train d'entre potes et tout ça. Et s'il y a un mec qui est un peu trop amoureux d'une fille, il sort du groupe pour être avec cette fille. On le regarde, oh, il est plus avec nous. Oh, c'est un canard. Oh, il est plus... voilà. Donc on est dans ce truc, on sait pas si on doit y aller ou pas. Et en même temps, tu vas à l'école et souvent, t'as la plus belle de la classe, quoi. C'est-à-dire celle que tout le monde veut. Mais moi, à ce moment-là, je suis un grand timide. Donc moi, je déclare pas ma flamme. Donc il y a ce moment où il y a le quart d'heure américain. On veut tous danser avec la même fille. Mais on est combien à aller lui demander ? Il y en a un, le plus courageux. Beau gosse, sûr de lui. Moi, c'est pas mon cas. Je me dis, vas-y, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin, je reste dans mon coin. Et je prie pour que ce quart d'heure dure 10 minutes.
Pour qu'il dure 5 minutes,
voilà,
qu'il dure pas un quart d'heure.
Voilà, qu'on passe à autre chose. Donc ça me mettait énormément la pression.
Ah, c'est un trauma, quoi.
Ouais. Donc du coup, ouais, tout le reste, c'était cool. Mais ces 15 minutes-là, oh mon Dieu, je souffrais.
En dehors de ce quart d'heure-là, c'était quand même bonne ambiance.
C'était super bonne ambiance.
On écoutait quoi ? Vous dansiez sur quoi ? C'était quoi à cette époque-là ?
Michael Jackson, déjà, c'était ce qu'il y avait de numéro 1. On dansait sur du Michael Jackson. Je me rappelle des premiers morceaux de rap américain qui rentraient dans nos vies. Je me rappelle d'un morceau de Rob Bass et Easy Rock. Le morceau s'appelle It Takes Two. Pas comme aujourd'hui où t'as des millions de morceaux de rap à jouer. À l'époque, t'en as pas beaucoup, donc ça fait que ce morceau-là, il passait au moins 20 fois dans la boue. Et on était content à chaque fois, comme si c'était la première fois. Donc voilà, et des pas de danse incroyables, des gens qui faisaient des acrobaties, tout ça. Non, c'était cool.
Je t'ai entendu raconter dans une autre interview qu'à cette époque à Sarcelles, il y avait beaucoup d'Antillais, que tu fréquentais énormément d'Antillais, et que bah, t'as commencé en fait à sortir dans les soirées antillaises, caribéennes, et à kiffer le zouk.
Ouais, ça c'est...
c'est un peu plus âgé.
Voilà,
plus
là je suis... j'ai 18 ans, quelque chose comme ça. En fait, on grandit avec cette musique. Le zouk, parce que le dimanche, les papas antillais, ils en profitent pour laver leur voiture. C'est très important la voiture pour le papa antillais. Donc il la lave, mais il met son zouk avec sa sono bien réglée. C'est-à-dire que si quelqu'un passe derrière, dérègle la sono, il va le remarquer. Il va dire qu'il a touché à mon autoradio. Donc vraiment, voilà, c'était important. Et en fait, c'est une rythmique que nous, on entendait déjà tous les dimanches, qu'on le veuille ou non. Et puis après, en semaine, des fois, t'as un pote qui en écoute ou machin. Les filles, beaucoup aussi, qui en écoutaient et tout. Et puis, à un moment, tu t'intéresses et surtout... C'est quand même la première danse collée serrée que nous, on connaît finalement. Et c'était ce truc, justement, on est dans l'âge où on commence vraiment à penser aux relations sexuelles. Donc, faut se rapprocher un peu plus des filles et tout ça. Et ça, c'était la musique pour. Donc, du coup, t'as plein de mecs qui étaient des durs dans la ville. Tu les voyais dans leur voiture, ils écoutaient du Zouk Love. Ils fermaient les yeux. Et je me disais, quoi ? Il écoute ça ! Mais parce qu'ils voulaient se rapprocher des femmes. Et c'était important. Et alors ensuite, quand tu découvres les clubs caribéens, tout, alors là, tu vois l'ambiance, tout ça, machin. Parce qu'il y a le zouk, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le dancehall, qu'avant on appelait le raga. C'était des grands moments, une ambiance de feu.
peux nous parler des banquets antillais, ce qu'il y avait,
ouais.
Ce qu'on appelait les banquets.
Les banquets, ouais. Alors ça c'était plus ce que les Américains appellent des house parties. Ça c'était pas en club, ça c'était vraiment à la maison. Moi, des amis à moi antillais qui me disaient, mon père fait un banquet. Ça veut dire que, comme ce que j'expliquais tout à l'heure dans la communauté camerounaise, ils vont inviter plein de familles antillaises, voilà, autour d'eux, justement pour pas que les enfants se sentent seuls. Le père va dire, vas-y, tu peux inviter des amis à toi. Donc là, à ce moment-là, ce mec vient dire, ça vous intéresse, venez, mon père a fait un banquet. Nous, au début, c'est le premier truc, c'est, il y a à manger, ouais, ok, on va découvrir, mon premier boudin, je le mange dans un banquet, en fait, vraiment. Voilà, on est content, on mange et tout. Et puis après, on voit l'ambiance, ils écoutent du zouk. À l'époque, on appelait ça même Begin, c'était l'ancêtre du zouk, ce qui est avant le zouk. Ils écoutaient de la salsa. Moi, la première fois que j'entends de la salsa, c'est pas des latinos, tout ça, des antillais qui écoutaient de la salsa. En vérité, moi, je suis déjà dans la musique, je suis déjà mélomane, j'ai envie de faire de la musique, donc toutes les sonorités m'attirent, m'intéressent et tout. Je me dis, mais ça, c'est quoi? C'est pas du zouk. Non, ça, c'est de la salsa. Ah, ok. Et je voyais des gens bien habillés, des gens séduisants, qui venaient manger, faire la fête, danser, tout ça. Et nous, on était tout petits, on regardait tout ça. Et moi, j'analysais tout, en fait. J'ai un lien très fort avec les Antilles, alors que je suis pas antillais. Déjà parce qu'à Sarcelles, dans les années 90, il y avait une forte communauté, mais j'ai vraiment aimé leur culture, leur musique, tout ça, et je m'y suis toujours intéressé depuis mon adolescence, en fait.
Ouais,
et
puis après, t'as fait des tournées aux Antilles dans les clubs,
t'as été super bien reçu, j'ai dit, oh là là, j'aime trop cet endroit.
T'as fait des featuring aussi.
Exactement, j'ai fait des artistes de zouk, vraiment, j'aime beaucoup la culture antillaise.
T'as embrassé cette culture.
Ouais, totalement.
Alors, tes premiers clubs, tes premières boîtes de nuit, c'est quoi? C'est où? C'est des boîtes antillaises, justement? C'est
non,
le Red Light?
Non. Moi, j'ai commencé par les clubs select. Mais c'est complètement fou. Hein. Pour vraiment raconter l'histoire et être bien précis sur le rapport que j'ai eu avec les clubs, c'est que la première fois que je dois aller dans un club, c'est une amie à moi qui vit dans le 16e à mon arrondissement, que j'ai rencontré dans le milieu de la musique, qui me dit « Je fête mon anniversaire ». Et je vais le fêter dans une boîte de nuit qui s'appelle Les Bains Douches.
Ah ouais?
Je t'invite.
T'as quel âge à ce moment-là?
20 ans, quelque chose comme ça. Ok, cool. Bah je viens, je sors ma plus belle tenue et j'y vais. J'arrive devant et il y a un physio. Je sais pas ce que c'est, moi, à ce moment-là. Il y a un mec qui a pas l'air d'être assez costaud pour être de la sécurité, mais qui est entouré par plein de mecs costauds qui, eux, sont la sécurité, et qui me regarde et qui me dit « ça sera pas possible, monsieur ». Moi, je comprends pas ça. Moi, si tu m'invites à ton anniversaire, c'est que je vais rentrer à ton anniversaire. Donc, je dis « non, mais vous comprenez pas, je viens pour l'anniversaire de mon ami ». Et là, il me dit « oui, faites bien son anniversaire ici, mais ça sera pas possible pour vous ». Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Et je vois que plus j'essaie de parlementer avec le physio, plus les mecs de la sécu se rapprochent de moi. Bon, je comprends qu'il va falloir que je m'en aille. Et je fais demi-tour, complètement détruit, en fait, par ce qui vient de se passer. Je comprends pas. Et là, au bout de la rue, je croise des gens de Saint-Denis, en 93, que je connais, et qui me voient et qui sont en train de rire. Et qui me dit « Ah, toi aussi, t'as sorti ta meilleure tenue, ta tenue du dimanche, et tu peux pas rentrer ?» Je dis « Ouais, mais je comprends pas, je suis invité à l'anniversaire. » Et alors, on s'en fout ici. C'est lui qui décide qui rentre et qui rentre pas. Tu as beau être invité et tout ça. Je dis « Mais c'est pas logique. » Et je discute avec les mecs. Eux, ils rigolent parce qu'ils connaissent déjà ce système-là. Moi, je le connais pas, je comprends pas. Et ce genre-là, je me dis « Plus jamais je rentrerai dans une boîte de nuit, ça m'intéresse pas. Si c'est comme ça que ça marche, ça m'intéresse pas. » 2 ans s'écoulent. Je suis aux Champs-Élysées. Avec 6-7 amis à moi, je suis en survêtement, voilà, je marche. Et entre-temps, j'ai sorti mon premier single, qui marche super bien, qui s'appelle Pardonne-moi, qui est à la télé, qui est à la radio et tout, partout. Et il y a un mec qui me reconnaît, qui s'appelle Steve. Il me dit, t'es driver? Je dis, ouais. Il me dit, j'adore ce que tu fais et tout, je remercie et tout. Il me dit, ça te dirait d'aller au Bash? Je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est une boîte de nuit juste là. J'ai un an, moi, les boîtes de nuit.
C'est pas mon truc.
J'y vais pas. Il insiste. Et je lui dis, de toute façon, je suis en survêtement. Non. Après, il me dit, ok, laisse-moi au moins ton numéro de téléphone. et je t'emmènerai dans un endroit, tu vas aimer. Je dis non, mais laisse-moi ton numéro. Bon, ok, je laisse mon numéro et il s'en va. C'était plus pour qu'il me laisse tranquille. Le lendemain, il m'appelle et il me dit bon, ce soir, on va au bash. Je dis, c'est quoi le truc que tu m'as dit là aux Champs-Élysées? Je dis non, ça m'intéresse pas. Il me dit si, tu vas aimer. Je dis mais je vais pas rentrer. Il y a un physio à la porte. Oui, un physio. Eh ben, il va pas me faire rentrer, comme au bain-douche. Il m'a dit, écoute, je m'occupe de tout. T'es où? Donne-moi ton adresse, je viens te chercher. Il est venu me chercher en voiture. Je le répète, je l'ai rencontré la veille, je le connais pas. Je me dis, ce mec est motivé.
De ouf.
Il sort de Paris, il roule jusqu'à Sarcelles pour venir me récupérer et on retourne à Paris pour aller au Bash, cette boîte de nuit. Et quand on arrive là-bas, tapis rouge pour moi, je rentre partout, c'est incroyable. Ça me change de mon expérience d'il y a 2 ans au bain-douche. Et c'était à l'époque Jean Rock qui gérait cette boîte-là.
Ouais, le fondateur des VIP Room.
Exactement, VIP Room, ça arrive juste après le match. Ouais. Et quand j'arrive, il me présente le DJ du club qui me dit « J'adore tes chansons, machin, je la joue souvent et tout. » Ça me fait plaisir et tout, je suis comme un fou. Et du coup, je rentre dans cette boîte de nuit et je vois toutes les filles, allez, 80% des filles que je trouve super belles, qui me regardent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, cette histoire. Après, Steve me dit, tu vois, toutes ces filles-là, elles t'ont reconnu. Je lui dis, non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Il me dit, si. À ce moment-là, je suis un grand gamin, j'ai la vingtaine. Je me dis, ok, on va voir, on va tester. C'est-à-dire, je suis à l'extrémité de la boîte, je marche tout doucement, je vais à l'autre extrémité. Je te jure que j'ai vu un léger mouvement de foule, les filles me rejoindre tout doucement. C'est là que je me dis, oh, ça marche, mais c'est trop bien ici. Et je demande à Steve, c'est quand la prochaine soirée comme ça? Il me dit, mais il y en a tous les jours, dans plusieurs boîtes, tous les jours à Paris, il y a des trucs. J'ai dit, ah bon? On sort tous les jours. Pendant 3 ans, je suis sorti non-stop. Je me rappelle, à cette époque-là, à Paris, il n'y a que le lundi qu'il n'y avait rien. Tous les autres jours de la semaine, dans des clubs différents, il y avait, et notamment le mercredi au bain-douche, où là, tout d'un coup, j'étais VIP. Hey, le physio, le même physio.
La revanche.
Salut. Hey, waouh. Il m'a dit, tais-toi, c'est comme ça. Et je me suis tué. C'est tout. Et pendant 3 ans non-stop, c'était la fête.
C'est pas possible, c'est pas elle. Je vous jure qu'elle était laide avant. J'arrive pas à croire qu'elle soit devenue si belle maintenant. Je regrette tout ce que j'ai pu dire à son sujet de mauvais dans le passé. Après tout, c'est vous, c'est pas moi, moi je l'ai pas trop insulté. Quelle métamorphose, franchement, vise-moi cette beauté. Y'a pas à dire, la fille s'est carrément développée. Quand je pense qu'à l'école on l'appelait crotte de nez, maintenant ce sont nos nez qui coulent quand on la voit arriver. Son maquillage parfait, tenue très raffinée. À croire que chez elle, la classe est une qualité innée. Quand on la voit, on croirait qu'elle a été belle toute sa vie. Alors que ce n'est pas le cas, je me rappelle quand on était petit. Elle est la preuve vivante que les miracles existent. J'espère qu'en elle, il n'y a pas la moindre rancune qui subsiste. J'avoue qu'avant, je me moquais d'elle, maintenant je veux la conquérir. Première approche, il faut que ça marche, lâche un gros sourire.
Mais du coup, c'était une période faste à Paris à cette époque-là.
C'était
parce que...
incroyable. Ouais. Vraiment, il n'y a que le lundi où on se tournait les pouces. Tous les jours, il y avait quelque chose.
Ça a bien changé.
Ah oui, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça.
Et donc à ce moment-là, tu fréquentes les carrés VIP, tu profites à fond de la célébrité.
Où je vais pas mentir, musicalement, à part au bain-douche. Au bain-douche et DJ Albert, c'était très très bien en termes de sélection. Mais les autres clubs, je me régalais pas musicalement. Mais par contre, je vivais ce que les Américains appellent le groupie love. Ça veut dire que je venais de sortir mon premier album, on me reconnaissait, et les filles venaient à moi, j'avais pas besoin d'aller vers les filles et tout. J'ai 22 ans, c'est la vie de rêve en fait.
Tu vis ton rêve américain, quoi.
Surtout que je te racontais juste avant, mes craintes pendant le quart d'heure américain, pendant les booms, c'était ça ma vie. Donc du coup, même si la musique était pas toujours bonne, je passais des très bons moments et je sortais tout le temps. Donc c'est ça.
C'était quoi la musique dans ces clubs à l'époque?
Entre hip-hop et électro, mais la dominante, elle était électro quand même. Sauf au bain-douche le mercredi, où c'était hip-hop à 100%.
Parlons un peu justement des soirées hip-hop et du rap quand même.
Ouais.
quand même, puisqu'il y a un moment où tu découvres le rap via le hip-hop US, West Coast. Les premières claques que tu te prends, c'est en écoutant le Dynastyle, l'émission de Dynasty sur Radio Nova.
Ça, c'est le rap français. Je le découvre dans cette émission et je deviens fou. Enfin, ouais. Je deviens complètement fou.
Le hip-hop US, c'est quoi? C'est en regardant HIPHOP sur TF1?
Ouais, encore HIPHOP, c'était plus la danse. Ouais. Je faisais pas attention aux chansons. J'étais vraiment manipulé par la danse. Et en fait, cette émission, elle dure 6 mois sur TF1. Et quand l'émission s'arrête, bah pour moi, le hip-hop, ça s'arrête. Et moi, j'ai 7 ans à ce moment-là. Donc, je suis pas dans un truc d'aller fouiller, chercher si ça existe encore. C'est plus à la télé, c'est fini. Et pour moi, le rap, ça revient plus tard par des gens qui me font écouter des albums, qui me prêtent des cassettes. Et je découvre Run-DMC, Public Enemy, Eric Bien-Hakim, N.W.A., tous ces trucs-là. Je découvre le rap français sur Radio Nova, le Dynasty, l'émission de Dynasty et Lionel D, où il y a plein de gens qui viennent rapper en français. Donc pour la première fois, je comprends les paroles. Parce qu'avant ça, j'écoute du rap américain, mais je comprends pas les paroles.
Et maintenant, c'est au tour d'un autre rappeur qui va te donner spécialement pour toi sa chaleur. Et j'improvise ici même sur le mec Benji. Vas-y Joël, donne un peu, car tu es un MC.
Now we come to the rap.
Ensuite, il y a Rapline, émission sur M6 présentée par Olivier Cachin. On est dans le début des années 90, où il passe des clips de rap américain, des clips de rap français. Il y en a très peu, mais il en passe. Et surtout, les clips de rap américain, il y en a qui sont sous-titrés. Donc je découvre tout un univers, il raconte ça en fait et tout. Donc je deviens amoureux de toute cette culture et là, à partir de ce moment-là, j'en sors plus jamais.
Et alors du coup, vu que t'écoutes les Dynastyle sur Radio Nova, tu vas aux soirées de Radio Nova, les soirées chez Roger Boîte Funk, au Globo,
non, je suis trop
tout
jeune.
Ça, t'es trop jeune.
Je suis trop jeune à ce moment-là, je suis mineur clairement. Moi quand je découvre Radio Nova, j'ai 11-12 ans. Et je les entends, les rappeurs, parler. Tu te rappelles à l'époque chez Roger? Je me dis, c'est qui Roger? Moi, j'ai dit à chaque fois, ils parlent de Roger, je comprenais pas et tout. C'est des années plus tard que je comprends que c'était une soirée qui s'appelait Chez Roger Boîte Funk. Mais par contre, moi étant de Sarcelles, j'ai des gens qui sont dans le mouvement hip-hop et qui sont plus âgés que moi. Et notamment des Stomy Bugsy, des Passy, tout ça. Qui eux ont connu ça, cette époque-là. Et eux, ils me racontent en fait.
Ils font la transmission.
Voilà, exactement.
Et alors toi, les premières soirées hip-hop où tu vas, les premières soirées rap, c'est quoi? C'est où? Parce qu'il y a un truc, je crois, qui est assez intéressant de raconter, c'est qu'au début, la scène hip-hop, la scène rap en France, elle est très entremêlée avec la scène reggae, raga. Tu parlais de raga dancehall tout à l'heure.
Bien sûr.
C'est la même scène au début,
bien sûr.
Les sound systems.
À cette époque-là, il n'y a pas énormément de choses. Donc... quand tu fais du reggae et qu'il n'y a rien ce soir pour toi, tu vas chez les hip-hoppers et tu vois même si tu peux prendre le micro si tu chantes et tout ça. Et inversement, il y a des rappeurs qui allaient dans les sound systems aussi essayer de prendre le micro. Donc voilà, c'est deux mouvements qui sont cousins et qui sont en train de naître en France, qui sont en train de se battre pour créer des événements. Donc il n'y en a pas beaucoup, donc ils se mélangent.
Et toi alors, les soirées où tu vas, les premiers?
Après ma grosse période boîte select, comme je t'ai dit, j'ai dû sortir pendant 3 ans, non-stop. À un moment, je fais une pause et j'ai besoin d'aller dans les soirées hip-hop, pas les boîtes select. Dans des soirées hip-hop, c'est-à-dire des gens qui organisent un événement unique, qui louent une salle et qui font cet événement-là, qui en font la promotion pendant longtemps pour remplir la salle. Et une fois que c'est fait, tu sais pas quand sera la prochaine. Contrairement aux boîtes de nuit ou comme je te dis, les bains douches, tu sais que tous les mercredis, tu viens, il y a DJ LBR, voilà. J'ai commencé à sortir dans ces soirées-là et il y avait des trucs dans une salle qui s'appelait L'Oreille du Bois à l'époque. J'avais mélangé les époques, il y a eu l'époque du Kin et l'époque du Madame, bref.
Tout ça c'est sur Paname?
Paris, ouais.
Et alors qu'est-ce que tu trouves dans ces soirées par rapport au club select? C'est quoi l'ambiance?
Déjà, il y a une ambiance. C'est-à-dire que les gens viennent pour danser, pour frimer, pour draguer aussi, mais pour danser. C'est-à-dire que quand le DJ joue de la musique, du rap, les gens qui sont dans la salle connaissent les morceaux, s'amusent ou ça, machin. Alors dans les boîtes select, des fois tu peux jouer des morceaux et les gens ne connaissent pas, hein, ils sont pas venus pour ça en fait. Donc déjà tu vois des amoureux du hip-hop. Et je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Parce que j'avais trop tourné dans les clubs VIP, tout ça, select, et qu'à un moment je m'y retrouvais plus. J'avais fait le tour de mon groupie love.
Puis t'avais quoi, besoin de te sentir appartenir à un mouvement, à une communauté?
Juste
de
partager l'amour d'une chanson avec les autres. Dans les soirées select, le DJ pouvait mettre une chanson que j'adore et je pouvais être tout seul à lever le bras ou crier. Les autres, ils s'en foutaient, ils ne connaissaient pas. J'avais besoin de me retrouver avec la communauté, en fait. Où, ouais, quand il y a un gros morceau de rap qui tourne, tout le monde est content. Parce qu'on suit tous l'actualité du rap et on sait que c'est un gros morceau. J'avais besoin de revivre ça. Ça m'avait manqué pendant ces 3 ans.
et t'as été un peu dans les sound systems?
Ouais, ouais. Tard, malheureusement. C'est au moment où il commence à y en avoir de moins en moins, mais quand même, j'ai pu voir l'ambiance et j'adore. C'est une musique qui n'a pas connu autant de lumière que le rap, qui n'a pas connu le crossover, le côté mainstream du rap. Alors, il y a certains chanteurs de reggae qui ont fonctionné, mais ce n'est pas le mouvement. Alors que le rap, c'est partout.
Ça a explosé. Voilà. Le reggae est resté underground.
Voilà,
en fait.
Et en fait, c'est ça. C'est que quand j'allais en sound system, je me reprenais l'underground dans ma face. Voilà, c'est comme ça. Et ça faisait du bien. Moi, je pense que j'ai besoin de contrebalancer, être à fond dans les trucs VIP. Quand j'en ai marre, être à fond dans les trucs plus underground. Quand j'en ai marre, je retourne là-bas. J'ai besoin de contrebalancer. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être accepté dans les deux.
Et c'était quoi, du coup, l'ambiance dans les session systems? Ça dansait? C'était...
Ouais, il y a le fameux pull-up. Ça veut dire que quand le Selecta, qui est le mec qui joue les morceaux qui est au platine, joue un morceau que tout le monde aime, tout le monde commence à crier, hein, il est obligé de le remettre de pull-up, c'est-à-dire de tourner à l'envers. Là, tout le monde crie. Ah, ça veut dire que ce son est apprécié et il le remet. J'adore ça. J'adore ça. Ça, pour ça, moi, je peux payer, repayer, repayer rien que pour ça. Grand moment, ça.
Circle the block in and me drop coffee with the girl them at me a fit. Pull up. One round a front and two in a the back and out asylum where we. Pull up. Step up now this spot appear a tune a drop and the whole crowd a ball out. Pull
up. Et moi j'avais lu la biographie d'un mec qui s'appelle Rude Lion, ouais, qui était justement entre le milieu du rap et exactement du reggae, et qui était un gros gangster aussi. Qui était réputé pour ça. Ouais. Est-ce que, et ça avait l'air d'être assez ghetto, les soirées sound system.
Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'on aimait ça, en fait. Ouais. Tu viens vraiment parce que t'aimes ça, parce que sinon tu peux passer un mauvais moment. Les années 90, c'était sauvage, mais surtout pas les boîtes select, bien sûr. C'était vraiment ce genre de soirée, comme je t'expliquais, où c'était unique, épisodique. Et le problème, c'est que tous les mecs disent on va là-bas, on va là-bas. Et il y a des groupes de personnes qui se détestent dans Paris et sa banlieue. Et ces groupes se retrouvent dans la même soirée. Ça part en vrai. Le truc, c'est que souvent, t'étais au courant, alors qu'il n'y avait pas internet, hein, t'étais au courant que les mecs de telle ville étaient en guerre avec les mecs de telle ville. Tu connaissais une ou deux, trois têtes. Donc ça fait que quand t'arrivais dans la soirée, tu voyais les deux, trois têtes là, 5 minutes, tu voyais les deux, trois têtes ennemies, tu te disais, oulala, vaut mieux partir dans 5 minutes, ça va partir en vrille. Et ça partait en vrille. Ouais, j'ai vu des trucs très durs.
Par rapport à ce cousinage entre le rap et le reggae, je t'ai entendu dire que le rap, finalement, et les soirées hip-hop ont toujours eu un cousin en soirée. Le rap a toujours, ouais, eu une musique cousine en
c'est
soirée.
Vrai, c'est vrai. Ben, moi, quand je rentre dans le rap, le cousin du rap, c'est le reggae. Le raga muffin, comme on disait à l'époque, le raga, et qu'aujourd'hui on appelle dancehall. Tout doucement, on a commencé à entendre moins de dancehall. Les sound systems, il y en a eu de moins en moins. Et c'est le mouvement antillais, les clubs antillais qui ont pris le dancehall. Et il y avait de plus de dancehall en créole. Je parle de toute la période Admiralty, tout ça. Chris, c'est-à-dire, tu voulais entendre du dancehall? C'était dans les soirées caribéennes. Dans les soirées hip-hop, t'avais 15 minutes de dancehall. Par contre, tu commençais à avoir une heure de R&B. Le R&B devenait le cousin numéro 1 du rap. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est l'afrobeat. tu vas dans une soirée hip-hop, tu te prends tes une heure d'afrobeat. Moins de R&B. Par contre, le dancehall est revenu. Mais pas les nouveautés. Les gens, quand ils jouent du dancehall, ils jouent toujours des morceaux qui ont un certain âge. Voilà.
Toi, comment tu te l'expliques, ce cousinage permanent du rap en soirée?
Parce que le rap, déjà, c'est une musique qui puise dans les autres musiques. Donc, il a toujours besoin d'avoir une musique à côté. Je sais qu'il y a même une période où c'était pas vraiment un cousin, mais l'électro était à côté. Il y a beaucoup de rappeurs qui commençaient à mettre de l'électro dans leur musique et tout. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quand même la période Black Eyed Peas, Pitbull, tous ces trucs-là. Même Usher, il s'est retrouvé à monter sur de l'électro, Chris Brown, tout ça. Donc il y a eu cette période-là, mais elle n'a pas duré longtemps. Donc le rap, c'est quand même une musique qui puise dans les autres musiques, donc c'est normal qu'il y ait d'autres musiques autour tout le temps.
Alors, t'as sorti l'an dernier un livre, J'étais ouais. là, où tu racontes, t'es connu pour ton art de conter des anecdotes de la culture rap, de l'histoire du rap en France. Et dans ce livre, c'est une mine d'or d'anecdotes depuis le début de ta carrière. Uh-huh. Et le titre, il est quand même assez évocateur, ouais. puisque c'est J'étais là. Ouais. Donc, en fait, t'étais vraiment là, t'étais de toutes les teufs, t'étais là.
Moi, à partir du moment où je deviens rappeur, je cherche à créer mon réseau, je cherche à collaborer avec des gens, je cherche à m'élever, c'est-à-dire travailler avec les meilleurs et tout. Et c'est une époque où il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, t'as quelqu'un en vue, tu lui envoies un DM. À l'époque, il n'y a pas ça. C'est-à-dire où tu rencontres la personne, dans les événements. Donc, dès qu'il y a un concert, que tu aimes l'artiste ou pas, il faut y être. Que t'aies une place pour rentrer dans le concert ou pas, faut y être. Tu te mets devant et tout, et même si tu rentres pas dans le concert, tu vas sûrement croiser quelqu'un que tu cherchais, tout ça. C'est comme ça qu'on faisait. Il y avait quelques magasins aussi. Fallait traîner devant ou traîner dedans. T'allais croiser des gens. Il y a eu un moment quand ça a commencé à enregistrer beaucoup d'albums et tout. C'était dans certains studios. T'avais des studios où on enregistrait que du rap. Donc tu savais qu'il y allait avoir plein de gens du rap assez connus qui allaient passer dans ce studio. Tu venais traîner là. Et t'attendais de croiser des personnes. Donc voilà. Moi, j'avais cette démarche-là, et c'est pour ça que je me suis retrouvé à plein d'endroits où finalement il s'est passé de grandes choses. Parce qu'à la base, moi, je cherchais à être là où ça allait se passer.
Et t'étais là, du coup. Voilà. L'omniprésence de ton driver. Et il y a des choses qui se sont faites en soirée, justement, en club, des rencontres, des histoires musicales.
Ouais.
Des...
Ah si, bien sûr. Là, je parle vraiment de la fin des années 90. Ça arrivait que des rappeurs, un peu éméchés, se mettent sur le côté et commencent à faire du freestyle. Mais entre eux, pas de micro et tout, entre eux. Et là, t'as un rappeur, tu rentres dans le cercle. Toi aussi, tu rappes. Et il y a quelqu'un qui va te dire, hey, c'est bien ce que tu fais. Comment tu t'appelles? Il te connaît pas. Et vous échangez le numéro de téléphone. Tout est parti dans le freestyle, dans un club où c'était un moment où les mecs galéraient, avaient besoin de s'exprimer, de faire leur art plutôt que juste danser. Ils avaient besoin de rapper et ça crée des connexions et ça va donner quelque chose. Vous allez collaborer. Tout. C'était vraiment comme ça à l'époque.
C'est quoi la suite de ton parcours festif plus tard dans les années 2000?
Je retourne dans les clubs select, notamment au Man Ray, qui était aux Champs-Élysées à l'époque. Et tous les dimanches, il y avait une soirée incroyable où il y avait des gens du milieu hip-hop assez connus, le public entre guillemets anonyme, des habitués, et des joueurs de foot professionnels. Et les rappeurs adorent le foot. Et les joueurs de foot adorent les rappeurs. C'était incroyable ce qui se passait. C'est-à-dire tout le monde avait les yeux qui brillaient. C'était n'importe quoi. T'avais des rappeurs qui faisaient des déclarations d'amour à des joueurs de foot. Hey, je t'aime trop. Mais moi aussi, je t'aime trop. Et tu vois, des trucs tous les dimanches comme ça. J'étais mort derrière. Je tairais le nom d'un certain joueur de foot pour pas lui mettre une mauvaise réputation. Mais je me rappelle que le dimanche soir, ça veut dire à 21h sur Canal+, il y avait le match de Ligue 1 du dimanche. Donc que je regardais. Et après tout ça, le soir, avec mes potes, on se rejoignait et on allait au Man Ray dans ce club. Et j'ai vu un mec qui jouait à Lens ou à Lille, je sais plus où était le match. Je regarde le match, je le vois. Et le soir, quand je vais à la télé, et le soir, quand je suis au Man Ray, il est là. Ça veut dire que quand il a terminé le match, il est monté dans une voiture. il a roulé jusqu'à Paris parce qu'il voulait être dans cette soirée. Il savait que c'était la soirée du moment. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, lui, il est motivé.
Oui, oui, on va tout donner jusqu'au bout et c'est logique. Avec encore une opportunité là pour de la place.
Ouais, avec ce ballon qui voyage. Ah, l'égalisation!
J'aimerais qu'on parle un peu d'une autre de tes passions, un autre de tes amours en musique, ouais, qui n'est pas le rap mais qui est le reggaeton.
Ouais, grand fan, grand fan.
Grand fan de reggaeton, fan. T'es même un reggaetonero.
Reggaetonero, on dit.
Reggaetonero, ouais, français.
Ouais, c'est ça, exactement.
Alors raconte-nous un peu déjà, bah, comment toi tu tombes dans le reggaeton. Je crois que c'est autour de 2004 avec un remix de Gasolina.
Ouais, ça veut dire que moi, en fait, j'entends la version originale de Daddy Yankee, Gasolina, ça passe un peu à la radio, j'aime bien, mais sans plus. Il y a Lil Jon qui va sortir un album, moi je suis fan de Lil Jon, et dans cet album-là, il y aura un remix de Gasolina, Daddy Yankee featuring Pitbull et Nori, et des ambiances de Lil Jon dessus. Et là, ça change tout pour moi parce que j'entends Lil Jon crier dessus et qu'il y a Pitbull et Nori qui sont des rappeurs que j'écoute déjà. Donc voilà, du coup, je commence à vraiment aimer Gasolina. Mais pas spécialement le reggaeton, je suis pas le mouvement. Et c'est ma sœur qui vit à New York à ce moment-là et qui a une grosse communauté latine là-bas. Et qui se prend le premier, ce qu'on appelle le premier âge d'or du reggaeton, avec des Daddy Yankee, des Don Omar, des Tego Calderon, des Wisin et Yandel, et j'en passe. Et elle me dit, il faut que t'écoutes cette musique. Et moi, je dis, ah non, ça m'intéresse pas. Et elle me force, et elle me connaît par cœur, elle me dit, j'ai l'album qu'il te faut. J'achète le CD. Je rentre chez moi, je l'écoute. Il est plus jamais sorti de ma chaîne Hi-Fi pendant au moins 6 mois. J'écoutais que ça. Et pourquoi cet album-là m'a marqué ? C'était la parfaite introduction pour quelqu'un comme moi. C'était un DJ hip-hop qui s'appelle Tony Touch, qui a fait cet album qui s'appelle le Reggaetonny Album. Et dedans, c'était que des combinaisons entre des rappeurs d'origine latine et des reggaetonneurs. C'est-à-dire que moi, j'avais mes repères. La moitié des artistes, je les connaissais. C'était des rappeurs. Mais les reggaetonneurs, je les découvre. Et chaque artiste, j'allais voir s'ils avaient des albums et je commandais les albums. Et là, je rentre dans un monde, je me dis, j'adore, c'est incroyable. Et comme par hasard, quand je parle à un pote à moi de ça, il me dit, ah, mais je connais un DJ reggaeton, il organise des soirées à Paris, à la Seine-Bastille et tout. Ah, ben vas-y, je te le présenterai et tout. Et il me le présente un jour et le mec, il me dit tout simplement, il sait qui je suis, il me reconnaît. Il me dit, ah, t'aimes le reggaeton? Je dis, ouais. Il me dit, ben viens, on sort, je t'invite. Et je rentre dans un monde incroyable. Je découvre des communautés qu'il y a à Paris, en fait, je savais pas. Parce que à ce moment-là, les latinos qu'il y a dans cette soirée, ils sont très drapeaux. Ils viennent avec des drapeaux de leur
chacun pays. Chacun de leur pays, ouais. La Colombie,
et
Porto
là, je
Rico.
Vois Colombie, je vois Chili, Cuba, ça me choque pas. Mais quand je vois, je dis, mais ça c'est l'Uruguay. Ouais, il y a des Uruguayens à Paris. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a et tout. Et moi, c'est les drapeaux que je connais par rapport au football. Et là, je vois qu'il y a toutes ces communautés-là à Paris. Là, je dis, mais c'est incroyable. Et je vois, les gens sont heureux. Les gens connaissent toutes les paroles. C'est leur culture, c'est leur langue. Les gens sont sexy. Les filles sont habillées super sexy. C'est dans leur culture. Je dis, mais c'est quand la prochaine? Oh, on en fait une par mois. Tous les mois, je suis là. Et après.
J'étais là.
Et voilà. Après, je rencontre d'autres organisateurs. Ça fait que quand l'un n'organise rien, il y a l'autre qui organise. Donc, je commence à sortir encore plus dans le milieu latino. Aujourd'hui, je les anime les soirées carrément. C'est-à-dire, je suis au micro avec des DJ latino et j'anime la plupart des soirées latines sur Paris. Et je peux te dire que c'est une communauté qui te laisse pas rentrer s'ils sentent pas que t'as vraiment l'amour de leur culture. Si t'as pas l'amour de leur culture, reste sur le côté. Tu vas pouvoir rentrer dans la soirée, tu t'amuses, mais tu vas pas traîner avec. acceptez-moi, ils m'ont accepté au bout d'un moment quand ils se sont dit, oh, il est sérieux, c'était pas juste un passage, il aime vraiment. Et c'est un moment où je suis allé carrément en Colombie.
Ouais, t'as été en Colombie, ouais. C'est quand, en 2013, tu vas en Colombie pour la première fois,
quelque chose comme ça, je sais, ouais, je crois que c'est 2013.
Et alors ?
La claque de ma vie, quel voyage, quel endroit, des gens extraordinaires, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et là, normalement, je vais à Porto Rico à la fin de l'année.
C'est vrai.
Donc, ouais. Donc, je suis vraiment. Ouais, là, je suis complètement devenu accro à ça. C'est comme le rap. C'est une musique qui puise dans d'autres musiques. Donc, ça m'a fait découvrir la salsa. Ça m'a fait découvrir le merengue. Ça m'a fait découvrir la cumbia. Ça m'a fait découvrir la bachata. Ça m'a fait toutes ces choses-là. Et il y a la bouffe aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Et ça,
truc. En Colombie, je crois que tu arrives à Cartagène, qui est sur la ouais. La côte nord caribéenne. C'est comment les soirées ?
Ça m'a rappelé l'Afrique. Je pense qu'ils ne savent pas à quel point ils sont proches de l'Afrique. Ils ne le savent pas. C'est vraiment les mêmes ambiances.
Là, d'autant plus sur la côte caribéenne, hein, qui est vraiment la région africaine de Colombie.
Il y a beaucoup d'Africains descendants d'esclaves qui sont encore là et tout. Et j'ai eu la chance de discuter avec. Du coup, ils ont cette ambiance africaine sur la côte. Et il y a ce truc de... Ok, on n'a pas d'argent, mais chaque jour pourrait être le dernier jour, donc on s'amuse. Une fois qu'on a mangé, le reste c'est du bonus. C'est cliché de dire ça, hein, mais ça nous met une claque à nous, occidentaux, qui voulons toujours prévoir les choses. Je suis reparti de là-bas en me disant, ouais, chaque jour qui passe, il faut que je sois heureux au moins 10 minutes, et le reste c'est du bonus.
Moi, une chose qui m'avait marqué... quand j'étais allé en Colombie, c'est le rapport à ce qu'on appelle ici le bruit, et qui là-bas en fait c'est juste la musique. Normal, il y a la musique partout, partout dans la rue. Quoi, c'est un autre rapport total.
Moi, j'ai découvert,
aux nuisances.
J'ai découvert un morceau de Marc Anthony, qui est un salsero portoricain, là-bas, parce qu'il était dans toutes les voitures, il était dans tous les magasins, il était dans la rue, t'entendais que cette chanson. Sauf que c'était une reprise de Khaled, Chop Khaled, que nous, on connaissait déjà en français. Et quand moi, je l'entends là-bas, je dis, mais c'est Khaled. Et tout. Non, c'est le nouveau Marc Anthony, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais la meilleure promotion pour une chanson, c'est ce que... Oui, ici, on appellerait le bruit, et que là-bas, on appelle la musique. Quand ta chanson, elle est partout dans la rue, c'est que c'est un hit.
Tu vas même pousser ta passion jusqu'à devenir, je le disais, reggaetonero, ouais, toi-même, français. Ouais. Donc tu fais du reggaeton en français, tu as sorti des albums de reggaeton.
Quand je suis en Colombie, j'y vais pour tourner un clip.
Ouais.
Ce qui est incroyable, c'est que je tourne des scènes dans la rue. Et t'as des Colombiens qui viennent me voir et me disent, mais c'est en quelle langue ? Je dis, c'est en français. Du reggaeton en français ? Ils disent, mais tu viens d'où ? Je dis, de France. Vous connaissez le reggaeton en France ? Je dis oui. Je dis mais c'est notre culture. Hein. Vous connaissez notre culture ? Ouais. Mais vous nous aimez ? Je dis moi je vous aime. Et ils étaient là. Ah. Et du coup ils me disent hey, dis aux Français qu'ils peuvent venir ici. Parce que je sais que tout le monde a peur de venir ici. Mais regarde, on est gentil. Je dis je dirais aux gens de venir. Et c'est ce que j'ai fait dès que je suis rentré. Parce que j'ai passé un super moment. Mais voilà, eux ils étaient vraiment touchés par le fait que des gens extérieurs au monde hispanique puissent ressentir leur musique, leur culture. Après, ils disent, je peux être dans le clip ? Ouais, viens. Ouais,
résultat, tu sors Fuego Self Control en 2014, album de reggaeton.
C'est ça.
Reggaeton System en 2021, ouais. Il n'y a pas si longtemps.
Il y a eu deux projets comme ça. Et c'est moi, en fait, quand j'aime, je veux tout savoir et à un moment, je veux faire.
Yeah. Il est temps de rendre hommage à tous les acteurs du reggaeton. J'en ai sûrement oublié certains, mais c'est pas grave.
Si j'étais le président des victoires de la musique, il y aurait une section reggaeton, avoue que ce serait magique. Si j'étais le président des victoires de la musique, verrais au partout avec des nanas magnifiques.
Il y a une phrase dans ton livre « J'étais là » où tu dis « À partir de ce moment-là, j'envisage ma carrière musicale comme bipolaire, faite de rap et de reggaeton, avec la possibilité de finir un jour chanteur de salsa en costard blanc. »
J'aimerais tellement.
C'est pour quand ça ?
J'aimerais tellement. Ça, c'est la fin de ma carrière, ça. On n'y est pas encore. Mais ouais, ça, c'est la fin. Moi, je vais finir comme ça. Je vais finir comme ça. Moi, il y a Marc Anthony qui est venu faire un concert à l'Accor Arena il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois, Je te dis la vérité, je suis allé voir le concert, j'étais tout seul, je me suis assis. Il y a tellement d'émotions dans cette musique. À un moment, je vais pas mentir, j'avais les yeux mouillés. J'étais tout seul. C'est-à-dire la musique, si on sortait, tout comment le mec vit le truc, tout ça, j'étais là. Mes yeux étaient mouillés. Je sais pas si les larmes ont coulé, mais mes yeux étaient mouillés.
Voilà. Et tu danses la salsa?
Très mal.
Très mal.
Mais je m'exerce, j'apprends. Aujourd'hui, je suis meilleur que l'année dernière. Voilà.
C'est déjà, c'est l'essentiel.
Mais nul quand même. Mais je progresse.
Et t'aimes danser?
Ouais, après, c'est même pas. Ça vient naturellement. C'est l'ambiance qu'il y a dans le club ou dans la salle. Il y a des gens, la danse, c'est leur truc. Ça veut dire, même si personne danse, eux, ils vont danser. C'est leur truc. Moi, je suis pas comme ça. Par contre, il y a une ambiance, tout le monde est heureux, tout le monde danse. Ah ouais, là, je vais danser.
Ah. Tu vas te faire porter par
voilà,
par
moi, j'ai besoin de tout. La musique et les gens, l'ambiance, l'ambiance, c'est important.
Donc aujourd'hui, quand tu sors, c'est soit pour sortir, soit pour travailler, parce que t'animes des soirées, comme tu disais, que ce soit des soirées rap ou des soirées reggaeton, des soirées latines. Quand t'animes, quand tu travailles, tu fais la fête quand même, tu t'amuses, tu
considères. Ouais. Mais en fait, c'est ça que les gens aiment avec moi, en fait. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, on aime bien quand t'animes, t'es souriant, t'es tout le temps, mais je suis en train de m'amuser peut-être plus que vous, les gars. C'est ça le truc, c'est que quand je travaille avec des bons DJ, les DJ me font plaisir parce qu'ils mettent les chansons dont on a besoin. Donc je m'amuse. Et mon boulot, c'est de ramener encore plus d'ambiance qu'il y en a. Donc je fais tout pour, et quand je vois que les gens dans la salle répondent, ben, je suis heureux et je donne encore plus. Et de toute façon, ça, c'est un truc où tu peux pas mentir. Si le DJ est pas bon, je vais pas être bon. Si j'ai pas envie d'être là, je vais pas être bon, ça va se voir. Pour que ça soit bien, il faut que je m'amuse. Donc j'arrive toujours dans le meilleur mood. Et voilà, je viens faire la fête avant tout. C'est juste que moi, j'ai un micro et pas eux. Mais je suis quand même heureux.
C'est clean. Vous êtes bien au Rap Contender 16. Et le battle d'aujourd'hui va être historique, du genre...
Historique.
Yeah. Ok, donc moi, comme je disais, c'est Driver, a.k.a. Didier Deschamps, et je vais ramener Karim Benzema. Logique.
T'as... Évidemment, aussi été connu pour animer les Rap Contenders, l'émission de clash entre rappeurs. Ouais. Est-ce que... Un clash comme ça, un Rap Contender, c'est une fête aussi ou pas du tout?
C'est une fête pour le public. C'est une fête pour nous qui organisons, qui présentons et tout ça. C'est beaucoup plus tendu pour les deux rappeurs. Et ça devient une fête pour le gagnant.
Ah oui.
Voilà. Après le perdant, bah ouais, il passe un sale moment, mais il rentre chez lui, ça se tasse un peu, et peut-être un mois plus tard, les vidéos sortent sur YouTube. Et là, ça devient un cauchemar pour le perdant. Et ça devient un moment incroyable pour le vainqueur. C'est la fête, mais pas pour tout le monde.
Ok.
Alors, pour le vainqueur de ce battle entre Andra et Doc Brown, le vainqueur est... Là, je suis en mode Driver aka Nikos. Le vainqueur est... Andra!
Comment tu vois un peu aujourd'hui justement l'état de la fête, voilà, on est quand même après le Covid à Paris, toutes les soirées rap, les soirées latines, comment tu vois la nuit toi aujourd'hui qui la fréquente beaucoup?
Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est qu'il y a du monde dans toutes les soirées. Et je le vois dans le latino, il y a différents organisateurs qui essaient de pas se marcher sur les pieds. Et tu te rends compte, d'après les vidéos qui tombent sur les réseaux sociaux, qu'il y avait du monde partout. Les gens, ils arrivent à se créer un public. Nous, notre spécialité, c'est plus ça. Ok, tu vas avoir ces gens-là et vous remplir ta salle. Les autres, ils sont plus dans telle spécialité. Ils vont toucher un autre public et ils vont remplir leur salle. Et je vois ça aussi dans le hip-hop. Il y a du monde partout. Et moi, je trouve ça beau.
Qu'est-ce qui, d'après toi, relie, dans le fond, une fête, une grosse fête de famille camerounaise dans un appartement, ouais. Une soirée reggaeton à Carthagène, une soirée hip-hop à Paris dans les années 90 ou aujourd'hui qui va mixer afrobeats et hip-hop ? Ouais. Qu'est-ce qui relie tout ça ?
La passion. La passion, en vrai. Quand le DJ va mettre les chansons de thème, tu vas danser. Ça, et ça, ça s'appelle la passion. Donc, en vérité, qu'est-ce qui fait l'ambiance d'une soirée ? C'est pas que les gens soient beaux. C'est que les gens aiment la musique qui est jouée. Donc, c'est ça, pour moi, la base. Et tout le reste, ça vient après.
Il y a un sujet qu'on a tendance un peu à éluder quand on parle de fête, alors que c'est assez présent, en tout cas souvent, c'est l'alcool, la drogue, ouais. toutes les substances ouais. qui vont avec la nuit, qui Bien vont sûr. Avec la fête. Toi, Bien c'est sûr. Quoi ton rapport à tout ça ?
Moi, zéro drogue dure, zéro drogue douce, même pas une cigarette. Moi, vraiment, je suis pas là-dedans du tout. Quand je suis rentré dans ce milieu, c'est-à-dire que j'ai sorti mon premier album, j'ai vu la drogue dure devant moi dans ce milieu-là. La première fois que j'ai vu, j'ai crié. On m'a dit « Oh, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» On m'a fait comprendre que c'était normal ici et que c'est toi qui n'es pas normal ici. Maintenant, on peut tolérer, mais tais-toi. On m'a fait comprendre ça. Je suis sorti, ah, j'étais hors de moi et tout. Et les fois d'après, quand j'ai vu, bah, je me suis tué en fait. J'ai compris que ça faisait partie du folklore. Moi, j'en prends pas. Moi, j'aime pas ça. Moi, je déconseille ça aux gens. Mais en fait, si tu as choisi d'être là-dedans et que tu le fais devant moi, bah, je te dirai rien en fait. C'est ta vie. Et les conséquences, c'est toi qui vas subir les conséquences. Moi, voilà, je te laisse. T'es pas de ma famille. J'ai rien à dire. Je l'ai compris ça. Mais la première fois, j'étais comme un fou. J'ai dit, mais pourquoi ? Et pourquoi vous faites ça ? Mais enfin, c'est interdit. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Et après, j'avais 20 ans. Je sentais... Voilà. Mais voilà, l'alcool, c'est pas interdit. C'est différent. Je pense qu'on peut en parler. Moi, j'ai un background de buveur de champagne. Ça veut dire que dès qu'il y avait...
C'est les soirées deep, ça.
Non, même pas. Avant ça. C'est vraiment dans les soirées de famille et tout. Dès qu'on fêtait quelque chose, champagne. La première fois que j'ai bu du champagne, j'ai apprécié. Et c'est devenu mon alcool préféré. Mais quand tu vas en soirée hip-hop, c'est pas les alcools qui se vendent le plus. Les gens sont toujours du whisky, du rhum, de la vodka et tout ça, machin. Donc ça fait que du coup, j'ai pas beaucoup bu en soirée pendant ma période phase dans les soirées VIP. Je buvais même pas, clairement je buvais du jus de pomme. J'adore le jus de pomme.
Voilà. C'était, petite confession, voilà, j'adore le jus de pomme.
C'est ça, et c'est plus là. Je retrouve mon champagne maintenant, voilà. Mais ma période de la vingtaine à la trentaine, non, je touchais pas d'alcool. Sauf s'il y avait une coupe de champagne quelque part.
Voilà. Only champagne.
Ouais, vraiment, j'ai un petit bourgeois.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête ?
Le mauvais esprit. L'absence de passion. La concurrence. Et quand je parle de concurrence, je parle aussi bien des DJ que des gens dans la salle. Si on a affaire à un public de gens qui viennent se montrer, il faut que je montre que je suis mieux habillé que l'autre. Il faut que je montre que j'ai plus de bouteilles sur la table que l'autre. Il faut que je sers plus de meufs que l'autre. On va passer à côté de ce rapport DJ qui balance la musique et les gens qui aiment la musique. On va passer à côté de ça. Et là, la soirée, elle est nulle. Pareil, les DJ, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, des fois, t'as un club qui invite un DJ connu, entre guillemets. Il y a le DJ résident qui va faire le warm-up, qui va jouer avant. Il y en a qui se sentent en concurrence, il va jouer tous les hits. Boum, 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 boum. Après, il va dire « À toi !» Et l'autre, il ne veut pas rejouer les mêmes morceaux et là, il va commencer à galérer. Ça va tuer la soirée. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les gens. Il faut que les gens soient ensemble, aussi bien dans le public que les DJ.
Qu'est-ce que c'est, au final, pour toi, que le sens de la fête, sa raison d'être ?
Moi, je l'ai dit, c'est mon équilibre. Quand tu viens en club pour les bonnes raisons, c'est quand même un endroit où tu oublies tes problèmes et tu te lâches. Ouais, les problèmes, on verra demain. Mais là, tout de suite, là, me parle pas de ça. Parce que si tes problèmes, ils sont plus forts que tout, tu viens pas en soirée, en fait. Si tu viens, c'est que tu sais que ce moment où tu vas être dans la soirée, tu vas oublier tes problèmes. C'est un médicament. Faites-la, c'est celle médicament nous nie. Et repose en paix, Jacob Desvarieux. Ouais.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu devais choisir une seule track, le morceau ultime pour faire la fête pour toi.
Ain't No Fun de Snoop Dogg. À chaque fois que je l'entends, je fais n'importe quoi. Clairement. Je rajoute des paroles qu'il n'y a pas. Je danse, je chante. Je rentre dans la cabine DJ alors que je travaille même pas. Je prends le micro. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur cette chanson. Il y a même un DJ qui sait que si je mets ça driver, il va prendre le micro. Donc, ouais. Snoop Dogg, Ain't No Fun. When I met you last night, baby. Before you opened up your gap, I had a respect for your lady, but now I take it all back. 'Cause you gave me all your pussy, and you even licked my balls. Leave your number on the cabinet, and I promise, baby, I give you a call next time I'm feeling kinda horny. You can come on over and I'll break you off. And if you can't keep up that day, baby, just lay back and open your mouth. 'Cause
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.